Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour. C'est notre deuxième pour la 11e saison de cette émission. Notre invité est aujourd'hui Bertrand Maltier. Bonjour.
Bonjour.
Maire de Narbonne et président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, pour être précis. Alors, monsieur Maltier, vous êtes maire de Narbonne depuis pratiquement une année,
un peu de... Ça va faire dans quelques jours un an.
À peu de jours près, ayant succédé donc à Didier Mouly. Et vous êtes donc à la fois successeur, évidemment, mais également un héritier, héritier d'ailleurs d'un mouvement qui a une longue histoire sur Narbonne, sur laquelle on reviendra très probablement. Donc, comment pouvez-vous aujourd'hui vivre ce mélange qui est parfois difficile d'être à la fois héritier, donc on suit, on continue, et successeur, on apporte sa touche, son idée, sa philosophie.
Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, aux côtés de Didier Mouly. J'ai été le premier adjoint de Didier Mouly à la ville de Narbonne. Et forcément, j'ai un héritage à porter, une méthodologie qui nous vient d'un mouvement qui est plus grand que nous, celui de Nouveau Narbonne. Et forcément, j'apporte ma propre expérience, ma jeunesse, mon dynamisme, ma façon de voir la ville et de voir et de travailler pour son avenir. Donc, c'est un changement dans une forme de continuité, mais très personnalisée et très dynamique.
Alors, vous avez très vite, d'ailleurs, vous aviez, si je puis dire, pas mal de casseroles sur le feu, des dossiers qui aboutissent, donc qui étaient déjà bien, bien engagés, d'autres que vous mettez sur le feu et que vous allez lancer. On va revenir sur des exemples très, très bien, enfin, très concrets, en tout cas. Donc, les dossiers que vous aviez, alors on sait que dans l'administration c'est long, parfois ça aboutit, vous avez mis par exemple en marge, c'est un dossier sur ce qui s'appelle les berges de la Robine, je crois,
oui,
qui était, dont on parle depuis très très longtemps, qui a un petit mot sur ce dossier, mais on reviendra sur des choses beaucoup plus importantes.
Alors, les berges de la Robine, c'est une promesse de campagne de l'équipe Nouveau Narbonne. Voilà. C'est un sujet qui a été très long administrativement. On y a passé plus de 3 ans. On est, je le rappelle, sur un site qui est classé à l'UNESCO, donc on n'y fait pas n'importe quoi. On avait une problématique de chancre colorée sur les platanes et une volonté politique d'en faire une promenade, un chemin agréable, un poumon vert de la ville. Et donc ce dossier a été long, il est allé jusqu'à une signature ministérielle pour obtenir le top départ des travaux qui ont commencé il y a une dizaine de jours et qui vont durer pendant une année pour être livré un peu plus d'une année, 18 mois, pour être livré en fin d'année 2025.
Alors, on est remonté à une autorisation ministérielle.
C'est une autorisation ministérielle qui permet aujourd'hui le démarrage des travaux. Il y a des espèces protégées sur ce cheminement, chiroptères et papillons Diane, et donc c'est une technicité particulière avec une étude qui est menée par des spécialistes pour justement préserver leur habitat, ces espèces endémiques. Donc c'est un budget aussi, c'est une enveloppe importante, 3,8 millions d'euros, pour laquelle la ville est aidée par le Grand Narbonne, par la région et le département, par les fonds européens également. Et ça va être un cheminement qui part du théâtre Scène Nationale et qui va presque jusqu'au pont de l'autoroute. Donc on a 800 mètres sur lesquels il va y avoir un chemin de halage, un chemin piétonnier, où on va pouvoir se balader avec un rythme qui sera celui du promeneur, et une bande plus active qui sera juxtaposée à cette bande, à cette voie de halage, qui permettra les déplacements doux, le vélo, la trottinette, le footing, une mitoyenneté de 2 modes de déplacement qui va rendre ce cheminement très agréable, avec des plantations nouvelles, des aires de repos aménagées et un parcours à la fois botanique pour découvrir faune et flore en continuité du canal de la Robine. C'est un chemin que tous les Narbonnais pourront emprunter depuis l'hypercentre, puisque depuis n'importe quel cagnard, vous descendez sur les berges de la Robine et vous allez pouvoir faire cette continuation jusqu'au théâtre et ensuite continuer votre promenade. Et c'est véritablement, ça vaut le détour. Ça va être un petit coin sympathique. Vous allez longer tous les bâtiments, l'histoire de Narbonne, le canal de la Robine, tout en profitant des paysages.
Oui, sur un quartier d'ailleurs qui s'est fortement et qui continue à s'urbaniser aujourd'hui.
C'est ça, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté des berges de la Robine. C'est le quartier du théâtre, ce quartier est de la ville, un quartier hyper moderne avec le parc des sports et de l'amitié que l'on a rénové l'année dernière pour un peu plus de 5,5 millions d'euros. Le théâtre Scène Nationale qui a fêté son anniversaire le week-end dernier et l'aréna, le parc des expos, le musée Narbovia. Ce sont tous les grands équipements structurants des 20 dernières années de la ville qui se trouvent dans ce quartier et c'est un quartier qui s'est urbanisé, où il y a une forte population d'habitants, d'actifs et de troisième et quatrième âge qui y vivent. C'est un quartier très agréable et il amène, pour amener dans ce quartier d'activité, eh bien, on a trouvé que ce trait d'union végétalisé, cette bande verte dans le cœur urbain était le meilleur moyen de pouvoir s'y mouver.
Voilà, une image digne de l'environnement, finalement.
C'est ça. Puis en plus, ça permet, je finirai Jean-Claude, si vous me le permettez, par cette image. Le Narbovia, aujourd'hui, est tourné vers le sud, plein soleil, son entrée, même si on voit depuis le boulevard Humer-Mouly son entrée nord. L'architecte Norman Foster a voulu qu'il soit plein sud. Du coup, il y a une chambre de Mars qui a été créée dans l'aménagement du Narbovia.
Qui aujourd'hui jouxte le canal.
Qui jouxte la future promenade. Mmh. Donc en fait, vous allez pouvoir tout visiter à partir de cette promenade. Et ce champ de Mars a trouvé son aboutissement ultime, celui certainement qui était déjà dans la tête de l'architecte Norman Foster au moment de la conception du Narbovia. Ça se complète, cet équipement, avec les stationnements qui ont été créés autour du théâtre, le nouveau parking végétalisé autour du théâtre et le futur garage parking à vélo, le nouveau stationnement qu'il y aura dans l'aire de Crécelle tout autour du parc des expositions qui compléteront ce dispositif d'aménagement urbain.
Alors à propos de la Robine, vous avez, Bertrand Malquier, hérité d'un autre dossier probablement plus, à la fois plus lourd à gérer, mais également très prometteur au niveau de l'avenir, c'est ce qu'on appelle le pont des marchands.
Oui, alors le pont des marchands, c'est un très gros dossier, on l'a appelé le plan de sauvetage, c'est quelque chose d'assez inédit. Déjà, par sa configuration, il n'existe que deux ponts habités de la sorte en France, celui de Landerneau dans le Finistère et celui de Narbonne. Celui de Narbonne est le plus long, le plus grand, et c'est un enjeu patrimonial. C'est véritablement aujourd'hui le pont des marchands et la signature, c'est la carte postale pour les Narbonnaises et les Narbonnais, pour les touristes également. C'est une valeur patrimoniale. Il appartient à tout le monde, le pont des marchands. Et il y a des propriétaires privés individuels qui ont ces propriétés au-dessus de ce pont romain, ce pont qui a 2000 ans, avec des arches complémentaires. Il y a une technicité extraordinaire, très complexe. Et il y avait une réalité que l'on avait constatée depuis de nombreuses années qui s'est accélérée avec une défaillance du bâti, des pathologies du bâti nombreuses qui menaçaient ruines et qui menaçaient de faire disparaître ce pont des marchands, en plus de mettre en danger la sécurité des occupants et des passants.
Alors, a priori, beaucoup de gens avaient compris que c'était le pont des marchands qui était menacé. Il ne semble pas que ça soit le pont lui-même.
Le pont, c'est la voûte romaine n'a pas bougé. Elle a 2000 ans d'histoire, elle a été bien bâtie en son temps, elle n'a pas de difficulté. Par-dessus, il y a des arches complémentaires, des arceaux qui ont été complétés pour permettre d'accueillir des bâtis. Et ces bâtis, au fil du temps, alors pas tous, mais une grande majorité, ont été mal entretenus. Au fur et à mesure du temps, des évolutions commerciales, de l'évolution de l'immobilier, les rez-de-chaussée commerciaux très rentables pour les propriétaires ont été exploités et entretenus. et les étages ont été abandonnés. Et au fur et à mesure, eh bien, vous avez eu une dégradation par le temps avec de l'eau par ruissellement, du champignonnage, des défaillances et des pathologies tellement nombreuses du bâti que certains immeubles ont subi, de nombreux immeubles même, pas que quelques immeubles, des arrêtés de péril imminents avec des obligations de faire réaliser des travaux. La difficulté, c'est que sur ce pont, il y a eu des déplacements de murs porteurs, des chappes complémentaires ont été ont alourdi la surface du pont, et l'imbrication des bâtis fait que chaque intervention met en péril l'immeuble voisin. Tous ces immeubles sont empilés comme un château de cartes, et il suffit qu'une de ces cartes soit défaillante pour entraîner l'effondrement le plus complet. Donc, le juge administratif a nommé un collège d'experts. Trois experts du bâtiment sont venus sur site, ont décrété immédiatement l'urgence absolue parce que les immeubles menaçaient ruine. Il y a eu la fermeture que l'on a connue de la rue du Pont des Marchands et l'évacuation des immeubles dans leur entier, commerciaux et habitations. Et ensuite, eh bien, nous avons dû, dans l'urgence, faire réaliser des travaux de consolidation de cette sous-face. Un peu plus d'un million d'euros a été investi par la ville pour permettre la réouverture de la rue du Pont des Marchands. Ce n'était que la première étape.
Oui, la grande difficulté dans ce dossier, c'était qui fait quoi, finalement.
C'est ça. On a étudié, nous nous sommes fait accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage, par des experts, des ingénieurs, qui ont étudié, visité les immeubles, étudié au cas par cas par quel bout allions-nous prendre ce chantier pharaonique. Et il a été décidé que seule la puissance publique pouvait prendre la main et coordonner la rénovation globale du bâti sur l'ensemble de la rue. Et c'est pour ça que des décisions fortes ont été prises. La ville, avec l'agglomération qui a la compétence sur l'habitat, vont devenir propriétaires de cet immeuble sur la partie centrale de la rue du Pont des Marchands. D'autres propriétaires pourront céder également à l'agglomération ou à la ville leur propriété bâtie. Et cela permettra à la puissance publique de pouvoir accompagner de l'aide financière de l'État, d'accompagner cette rénovation et de coordonner, de piloter l'ensemble de cette rénovation. À terme, la ville conservera la propriété de ces immeubles qu'elle a rachetés.
Voilà, c'est la conclusion guidée par les experts, en quelque sorte.
C'est ça. Pour sauver le pont, donc nous allons racheter ces immeubles, de gré à gré, la négociation amiable ne se passe pas bien, nous irons jusqu'à l'expropriation, puisque c'est l'intérêt général, et une déclaration d'utilité publique allant dans ce sens nous a permis de foncer. Mais la ville, une fois les travaux réalisés, 20 ou 25 millions d'euros, conservera la propriété comme c'est le cas sur la rue Jean Jaurès, et donnera à la location pour des futurs commerces les biens dont elle sera propriétaire, dont elle gardera la propriété.
Bertrand Malquier, on marque une première pause, mais on reviendra peut-être un petit peu encore pour expliquer les quelques difficultés qui peuvent surgir dans la gestion de ce dossier.